Salut à tous, salut à toutes. Bonsoir Francis.
Bonsoir Jean-François.
Ah, vous êtes sur RTF 95.4 MHz. Vous écoutez le Mandarin Merveilleux, les réducteurs de textes, une émission consacrée au jazz, à la musique classique et à la littérature.
Oh, et je vois deux beaux livres sur la table du studio, Jean-François.
Alors, deux beaux livres, et c'est vraiment de la littérature. Voilà. Alors, le dernier livre de Vincent Almendros, Sous la menace, qui fait beaucoup parler de lui, qu'on entend sur France Culture, qu'on entend un peu partout.
Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il est de la famille de Nestor Almendros,
le chef-op de, voilà, le réalisateur, le cinéaste de Godard.
De Godard, mais pas que, de François Truffaut aussi,
Alors, j'en sais rien. Bon. J'en sais rien, voilà. Et alors, un ancien Modiano de 2014, c'est l'année de son prix Nobel. Fleur de ruine, je ne l'avais pas lu. Je croyais avoir lu tout ce que Modiano a publié et je ne l'avais pas lu. Et c'est une découverte formidable. C'est un merveilleux livre que j'ai lu avec grand plaisir.
Vous nous mettez l'eau à la bouche. Et alors, parmi les disques classiques que vous avez apportés ce soir, Jean-François,
j'ai porté du Schubert, j'ai porté du Mendelssohn. J'ai porté du Marais, avec les stars, enfin en tout cas les ex-stars de la musique baroque, Jordi Savall, Tom Kopman et Hopkinson Smith, qui jouent du théorbe et de la guitare. Et puis alors j'ai retrouvé un vieux disque dans ma collection de Carlos Gardel.
Il est dédicacé.
On écoutera bien... Adios muchachos.
Oh là là.
Compañeros de mi vida.
Oh non, vous n'allez pas faire ça.
Non, mais sinon, c'est la comparsita.
Bon, alors
nous verrons.
Je vois que le standard est déjà en train de bouillir parce qu'il y a plein d'appels pour la comparsita, Jean-François. Bon, moi j'ai du jazz aussi, vous voyez.
Il y a encore des disques dédicacés, j'imagine.
Moi, oui, Bon, alors écoutez, ce soir j'ai envie de commencer par un classique, ça sera Miles Davis. Puis ensuite, regardez, j'ai le quartet de Hermann Uriel et puis plein d'autres choses. Là, ça sera peut-être Andy Emler. On va voir. Les disques sont posés sur la table. Et ce qui est bien quand on fait du direct, c'est que, bon, on peut choisir selon l'humeur du moment pendant l'émission. C'est programmer et improviser, ben c'est ça le jazz finalement.
Voilà, exactement.
Voilà. La première page classique.
Page classique, c'est un impromptu de Schubert pour le piano. Schubert, merveilleux musicien, qui est mort à 31 ans. Vous vous rendez compte? C'est vraiment, quand on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, les leaders, les symphonies, en fait, etc. Et voilà. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui a vécu assez, assez pauvrement. Alors, il a été beaucoup aidé par d'autres musiciens chez qui il allait squatter, de temps en temps. Et en particulier, il a été beaucoup aidé par Franz Liszt, qui était une vraie star et qui gagnait énormément d'argent et qui en a fait profiter ses amis, mais aussi beaucoup Schubert. Alors, nous allons écouter cet impromptu pour les amateurs de référence. Donc, c'est le Deutsch 899. Vous savez, Deutsch, c'est le Köchel de Schubert, voilà.
Et alors, c'est une star du piano.
Alors, c'est une star, c'est en train d'être une star.
Ah oui,
Katia Bouniatichvili.
C'est une star.
Ça fait un peu ukrainien comme nom. Voilà.
Un peu géorgien, moi, je dirais.
Peut-être. Ah, vous avez raison, ouais. Sans doute géorgien.
On va
c'est
enquêter.
C'est des noms en Itzé, souvent. Vous savez, Simonidze, Shevardnadze, etc.
Les Shvili, c'est aussi beaucoup.
Mais c'est des génitifs, tout ça.
Oui, bien sûr.
C'est des génitifs. Bon, enfin, peu importe.
Ouais.
Nous écoutons donc cet impromptu Deutsch 899 en do mineur pour les amateurs de tonalité. Thank you. Voilà, très belle interprétation de cet impromptu très connu aussi de Franz Schubert. Alors, qu'est-ce que vous nous avez... Ah ouais, alors on change d'instrument. Hein.
Ah ben on change d'instrument. Puisque vous nous faites dans les grands classiques...
Ah bah oui.
Bah, je vais me gêner, tiens.
Personne ne vous le reprochera. Bien au contraire.
Bon, le classique des classiques de Miles Davis, c'est Kind of Blue, qui était publié, si je ne m'abuse, en 1960 ou 61. Et le morceau le plus connu du disque le plus connu de Miles Davis, c'est So What. Donc on va pas se gêner, on va l'écouter. D'autant plus que finalement, comme on croit trop bien le connaître, on l'écoute jamais. Alors allons-y. Ah, écoutez, non, vous trouvez pas que ça fait du bien de les réentendre de temps en temps?
Eh ben, mais bien sûr.
Alors, avec, donc, bien sûr, Miles Davis trompette, avec deux saxophonistes, John Coltrane, c'est lui qui prend le premier solo au début du morceau, et puis Julian Cannonball Adderley,
oui, c'est ça, oui.
Qui, voilà, et puis, bien sûr, Paul Chambers, Wynton Kelly, enfin, voilà, vraiment la belle équipe. C'est un disque, il fait partie des 50 disque indispensable à avoir dans sa discothèque, Kind of Blue.
Selon qui? Selon vous?
Ah ben c'est un classement mondial des disquaires, des spécialistes, voilà.
D'accord.
Mais je confirme, parce que quand on n'a pas le moral, on met ça sur sa platine, et ben la journée n'est pas complètement grise, elle est blues.
Voilà.
Elle est blue, blue, blue. Oh, regardez ce beau livre.
Alors, ce beau livre, c'est un livre court, c'est le dernier livre de Vincent Almendros. Alors, j'avais déjà présenté sur cette même antenne Fermouche.
Oui.
Et peut-être Honnêteté aussi. Et celui-là, alors, c'est le dernier. Et je ne vais pas dire que c'est toujours un peu pareil.
Ce qui je croyais que vous alliez dire c'est le meilleur.
Alors non, c'est pas le meilleur. Mm-hmm. À mon avis, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est Fermouche. Mm. Donc, je pense que ce n'est pas le meilleur. Mais il y a toujours, c'est de la littérature. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une manière de raconter et de décrire qui fait que c'est plaisant à lire. Voilà. C'est ce qui compte, ça n'est pas l'intrigue, donc c'est pas un polar, mais on le lit avec plaisir et quand même les personnages. Alors là aussi, les personnages eux-mêmes sont des mystères. Alors le héros Quentin, il n'a plus son père qui est décédé dans un accident de voiture. Il est avec sa mère et il part. Dans la région parisienne, il part avec sa mère et sa cousine qui s'appelle Chloé, qui a 11 ans, et lui, il doit avoir 14 ans. Et ils partent pour rendre visite à ses grands-parents, et ils comptent passer faire un tour et déposer une plante sur la tombe de son père. Quoi de plus banal? On comprend très vite, à des petites nuances, que, en fait, voilà. Sa mère, ma mère ne répondit pas. Elle s'installa et comme si elle ne m'avait pas entendu, boucla sa ceinture et alluma le moteur. Elle ne me supportait plus. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. On voit que sa mère ne l'aime pas. On voit qu'il a des relations assez bizarres avec sa cousine Chloé, qui elle-même est une gamine un peu étrange. Et alors, plein dedans. Voilà, il y a une atmosphère, donc je serais bien embêté. Il y a, comme souvent chez Almendros, une petite énigme qu'on verra à la fin, et on apprend que ben, cette Chloé en sait plus parce qu'elle a eu en main une lettre que... Enfin bref, je n'en raconte pas plus.
N'en dites pas plus.
Hein, mais il a le talent pour instaurer une atmosphère. Voilà, une atmosphère particulière qu'on ne quitte pas dans tout le livre. Pas forcément agréable d'ailleurs, parce que les personnages ne sont guère sympathiques, ne s'entendent pas bien et tout. Mais quand même, il y a quelque chose. Et il n'y en a pas beaucoup, des écrivains comme ça. Il y a Modiano, dont je vais vous parler tout à l'heure.
Oui, oui.
Mais par exemple, Simenon est comme ça. Mm. Simenon, vous savez, quand on lit Simenon, il y a une atmosphère. Voilà, et je crois que c'est ça, la littérature. En tout cas, c'est le dernier roman de Vincent Almendros, Sous la menace, et c'est aux éditions de Minuit. Juste un mot que je rajoute... qui est sur qui l'a reproduit sur la quatrième de couve. Alors ma mère, elle ne me supportait plus, elle se méfiait même et m'avait à l'œil après ce qui s'était passé dans le vestiaire du gymnase. J'avais intérêt à bien me comporter durant le week-end chez mes grands-parents. Pour être honnête, je la comprenais. Mes camarades et elle avaient raison. Avec l'arrivée de la puberté, j'étais en train de devenir un monstre. Voilà. Donc, Sous la menace de Vincent Almendros. Alors, tout le monde a reconnu, bien sûr, le concerto en mi mineur de Félix Mendelssohn. Donc, c'était l'Andante, interprété par... Alors, c'est du beau monde. Itzhak Perlman au violon et le Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink. C'est un enregistrement qui n'est pas tout récent parce qu'il date de... 83, voilà.
Alors, un petit prix Nobel.
Alors,
un petit
prix Nobel entre les mains. Oui. Alors, ouais. je vous le disais hors antenne, je croyais avoir lu à peu près tout ce que Modiano a écrit, et je me trompais parce que je n'avais pas lu Fleur de ruine, qui date de 2014, justement. C'est l'année où il a eu le prix Nobel de littérature. Et je me rappelle avoir eu un petit éclair de joie quand j'ai appris en écoutant la radio que le prix Nobel avait été décerné à Patrick Modiano. Je n'ai pas eu le même quand j'ai appris qu'il était décerné à Annie Ernaux, qui a bien des qualités, mais qui part de plus en plus en vrille ces temps-ci. Enfin bref. Donc, Modiano, Fleur de ruine, c'est un livre extraordinaire. Qui brasse les époques, qui brasse les lieux. Il y a même une sorte d'énigme policière. Un jeune couple qui est retrouvé par les voisins, enfin les voisins entendent des cris, des bruits, etc. Ils se sont suicidés, enfin lui, sa femme s'est suicidée, et lui s'est suicidé après. Et on se demande à la suite de quoi, on enquête, on les a vus partir avec... Mais en fait, on ne saura jamais qui ils étaient, ni pourquoi ils ont fait ça. Et ça amène le narrateur à se balader dans sa mémoire, dans les lieux, avec des personnages qui apparaissent et qui disparaissent, des personnages étranges, comme seul Modiano sait les inventer. Alors, par exemple, ce personnage qui s'appelle de Pacheco, mais dont on va apprendre qu'en fait il avait été recherché à la Libération sous le nom de Philippe de Bellune. Et alors il leur explique qu'il habite la cité universitaire. Alors vous savez, c'est celle qui est boulevard Jourdan, qui est un lieu qui fascine beaucoup Modiano. Et il raconte au narrateur, il lui dit qu'il habite au pavillon des provinces françaises, et donc il le raccompagne. Et puis donc le narrateur va s'asseoir sur un banc un peu plus loin. Et puis, il le voit ressortir, en fait, et repartir. C'est-à-dire qu'il n'habite pas là. Ces gens-là ont des fausses cartes d'étudiants. Tout ça, ce sont des gens qui ont un passé, qui ont fricoté avec la Gestapo, etc. Et qui ressortent, qui ressurgissent du passé. Et le héros les croise 20 ans plus tard, le voit, mais il est sûr que c'était lui. Mais l'autre ne répond pas. Enfin bref, c'est un enchant. J'en donne une très mauvaise idée parce que...
Vous devriez nous en lire un petit extrait.
Très difficile d'en parler. Mais il y a une poésie. En plus, Modiano sait tellement bien faire ça. Une espèce de poésie des noms propres. Et y compris des listes, par exemple, des listes de personnes qui ont été convoquées par la Cour de justice de la République à la Libération et qui ne se sont... procédure suivie du chef d'intelligence avec l'ennemi contre le Bob André, né le 6 octobre 1917 à Paris, 14e, 22 rue Washington. Philippe de Bellune, né à Paris le 22 janvier 1918, fils de Riclos y Pérez de Pacheco Mario et de Wery de Hulse Eliane, sans domicile connu, etc. Des noms comme ça. Les lieux où il se promène partout dans Paris, mais... Et qui lui, évidemment, alors il y a le le côté Montparnasse où il se promène beaucoup, mais aussi des endroits du 16e qui pourtant n'ont aucun charme, enfin la rue de la Tour, tous ces coins du 16e qui sont riches mais qui sont à peu près déserts tout le temps, enfin voilà. Et donc il se promène, on rencontre, il croise aussi des jeunes filles. Une Jacqueline qu'il rencontre là, on va apprendre qu'elle elle est dans un restaurant avec trois personnages peu recommandables, et puis finalement elle sort, elle les quitte, et alors le narrateur sort à sa suite et lui dit « mais vous avez quitté vos amis », alors donc il la rencontre, elle s'appelle Jacqueline, on se dit « ça va être ça, bon il va y avoir une histoire », et puis on a un peu plus loin que ben ça fait 20 ans, est-ce qu'elle est toujours en vie, est-ce qu'elle habite toujours Vienne, et à la fin lui, il va partir pour Vienne, on se demande aussi pourquoi, alors on ne saura que Jacqueline est restée à Vienne à l'âge de 20 ans. Voilà, à 20 ans j'étais parti pour Vienne avec Jacqueline de l'avenue Rodin, et puis on est 30 ans plus tard. Et là, il se promène, c'était en juin, on n'avait pas encore creusé la tranchée du périphérique. Alors, il y a aussi toute une série d'évocations de Paris, d'endroits de Paris qui ont bien sûr énormément changé. Enfin, c'est un livre qui a un charme infini, que j'ai lu avec un grand plaisir, même si c'est très difficile d'en parler et d'expliquer pourquoi cette atmosphère, alors là aussi, et encore plus qu'avec Vincent Almendros, là aussi il y a un vrai talent de l'atmosphère, et puis aussi ces personnages qui s'effacent, qui disparaissent, qu'on retrouve une espèce de passé, de va-et-vient entre le passé. Il y a même un moment où il a 15 ans et demi, il s'est enfui de son collège, et il erre dans Paris, enfin voilà, c'est une atmosphère magnifique. Très bon livre, un des meilleurs, je trouve, de Patrick Modiano, Fleurs de ruines, donc 2014, et c'est publié aux éditions du Seuil.
Eh bien, merci beaucoup pour cette évocation et pour cet enthousiasme, Jean-François, qui nous donne envie de lire ce
livre. Mais écoutez, j'espère, je vous le recommande vivement.
Ben, merci beaucoup pour le conseil, pour le tuyau. Bon, moi, je vous propose un peu de jazz et un peu de piano avec le quartet de Uriel Herman. Alors, je ne sais pas, j'étais en train de me demander pendant que je préparais la diffusion, s'il a un lien quelconque avec Yaron Herman.
Oui,
alors je répondrai à cette question, je vais faire une petite recherche, ou alors on demandera à Jean-Michel Légoni.
Oui, il doit le savoir. Voilà, je pense que Herman est un nom quand même assez répandu.
Oui,
ça doit être comme Martin ou Bernard.
Oui, oui, c'est comme les deux Avishai Cohen dont je vous parlais
l'autre
jour.
Oui, c'est comme Cohen, oui, c'est un peu connu comme nom.
Ce sont des noms assez fréquents. Alors voilà, donc je vous propose d'écouter cet extrait du disque Face to Face de Uriel Herman. Alors, donc, c'est un musicien qui a la petite quarantaine maintenant, qui est originaire de Jérusalem, où il a fait ses études de musique classique, de piano classique. Donc, son interprétation, enfin, sa façon de faire du jazz, on le voit bien, est très structurée, et vraiment, il y a la marque de cette formation classique. Mais tous les pianistes de jazz, maintenant, ont une formation classique, de toute façon.
Il ne faut pas qu'il la montre trop. Parce que Baptiste Trottignon, qui a à l'évidence une formation classique extrêmement élaborée, il la montre un peu trop.
Alors ça, c'était un petit peu son défaut en début de carrière, mais je crois que maintenant, j'ai écouté des disques plus récents de Baptiste Trottignon, je crois que maintenant, il est quand même beaucoup plus swing, si j'ose dire. voilà, donc je vous propose d'écouter un titre de ce disque de Uriel Herman, c'est Jva Esré. Alors je me suis demandé, je parle pas du tout hébreu, ce que ça peut bien vouloir dire. Ben, j'ai trouvé, tout simplement, ça veut dire 17. C'est d'après une chanson assez populaire en Israël qui est, ça doit être mes 17 ans, quoi, quelque chose comme ça.
Ah, d'accord.
Et donc, ça raconte la vie d'un jeune homme de 17 ans qui n'aime pas aller au lycée, qui traîne un petit peu dans les rues, qui ne fait rien, qui a le spleen.
Le seum.
Oui, je ne sais pas si ça se dit comme ça en hébreu.
Non.
Je suis sûr qu'il y a un mot hébreu pour ça, Jean-François.
Sûrement.
Parce qu'en matière de blues et de nostalgie, je pense qu'ils ont le vocabulaire. Donc, voilà, je vous propose d'écouter cette interprétation d'une chanson populaire reprise en jazz.
Thank you.
Voilà, c'est vrai que c'est une musique.
C'est une jolie musique.
Jolie musique, pas hyper originale, mais il y a une belle atmosphère. Ouais. Oh, alors là, pour terminer l'émission, on va revenir quelques siècles en arrière.
Oui. Écoutez, alors un bel enregistrement qui a été fait par Jordi Savall, par Tom Kopman et par Hopkinson Smith. Il faut toujours que je m'entraîne pour prononcer son nom.
Ça fait de la musculation de la mâchoire.
Oui, c'est vrai. Alors, donc, basse de viol pour Jordi Savall, clavecin pour Tom Kopman, Hopkinson Smith, théorbe et guitare, qui interprète une série de pièces de viol et de suite de Marin Marais. Alors, je vous propose d'écouter le prélude de la suite en la mineur, lentement. Très belle interprétation de Jordi Savall, qui est un de nos grands gambistes, et qui jouait cette suite de Marin Marais.
Ah bah c'est avec ce bel enregistrement que se termine le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte de cette semaine, mais c'est pas fini.
Normalement, ça revient la semaine prochaine.
Ça revient la semaine prochaine, voilà. Évidemment.
Ça s'en va et ça revient.
Ouais.
Bonne soirée à tous et à toutes. Merci Francis pour la réalisation technique impeccable et pour cette belle musique qui évoquait un piano bar un peu tard avec un verre à la main.
Allez, à bientôt. Merci Jean-François. Et donc on peut lire Modiano et le relire. The other.